Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue au programme de ce dimanche 27 juin. Avec vous, Jean-Noël Ducasse pour une heure en français. Au sommaire, le journal, les sports, le personnage de la semaine et notre série Europe of Voice et un focus sur les élections régionales en France. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Les grands titres de ce 27 juin, tout le Greater Sydney, les Blue Mountains, la Central Coast, Wollongong ont commencé leur première journée complète de restrictions pour 14 jours pour arrêter la flambée de l'épidémie de Covid-19. Darwin, les zones rurales, la ville de Litchfield et Palmerston entrent aussi dans un verrouillage complet depuis 13 heures ce dimanche. Pendant 48 heures, le territoire est confronté à sa plus grande menace de Covid-19. Des centaines de passagers d'avions voyageant le long de la côte est de l'Australie auraient pu être exposés au Covid-19 après qu'un personnel de bord ait été testé positif au virus. Le membre d'équipage basé à Sydney avec Virgin Australia a travaillé sur plusieurs vols aériens à destination et en provenance de la ville. La Nouvelle-Zélande a suspendu la bulle aérienne, les voyages sans quarantaine avec tous les États et territoires australiens pendant 3 jours jusqu'à mardi prochain, mardi 29 juin à 22h. Tout le Greater Sydney, les Blue Mountains, la Central Coast et Wollongong ont commencé leur première journée complète de restrictions pour 14 jours pour arrêter la flambée de la dernière épidémie de Covid-19. Les responsables de la santé admettent que trop de personnes infectieuses se déplaçaient dans la communauté. La chef de Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, a déclaré qu'elle n'aurait pas mis l'État en quarantaine à moins d'y être absolument obligé.
So there's two things going against us on this one. That is the fact that it's very difficult to geographically shut down various suburbs without people working and living having infected or transmitted the virus elsewhere. And secondly, the best advice I've had from health experts today is that the transmissibility is at least double previous variants that we've seen. And unfortunately, this variant is becoming the double, you know, the main variant. So those factors have led to the health advice that we've been given.
Le ministre de la Santé en Nouvelle-Galles du Sud, Brad Hazard, a fait appel aux gens à suivre les règles sanitaires.
The emphasis now is to defeat this virus. We all need to stop moving around unless we absolutely have to. Don't play games with yourself and with the community. Please stay at home unless you really need to go out or you have one of those 4 reasons. And even then, think twice before you do it.
Les régions rurales de Nouvelle-Galles du Sud sont également passées à des restrictions plus strictes pour empêcher la propagation du virus. Le médecin en chef, Kerry Chant, déclare que les restrictions de Sydney s'appliquent à de nombreux habitants de la ville qui peuvent être en vacances dans les zones rurales.
It is important that we do not seed our regional communities. So anyone who has been in Sydney, Greater Sydney, from the 21st of June, we're asking you to stay at home for 14 days since you've left that area. And the reason for that is we want to make sure that you minimize your transmission risk to anyone else.
Le Parti travailliste fédéral soutient les décisions de la chef de Nouvelle-Galles du Sud en ce qui concerne le lockdown de 2 semaines concernant l'État. Le travailliste Chris Bowen soutient le verrouillage, mais il a déclaré au programme Insiders de l'ABC qu'il y avait 3 façons dont le gouvernement fédéral avait également laissé tomber les Australiens.
One, our pathetic record of vaccination, 3% of Australians vaccinated. Two, lack of quarantine. We've now had 26 separate outbreaks from quarantine. Five in the last 3 weeks. It's getting worse, not better, including in New South Wales, a driver. And Jane Holton has said she specifically advised the Prime Minister that this was a hole and a priority to fix. It appears Scott Morrison treated that advice with the same contempt he's treated all of Jane Holton's advice. And thirdly, we don't talk about it much anymore, a non-existent COVID safe app, which again was the federal government's responsibility.
Le chef du territoire du Nord a déclaré que le Northern Territory était confronté à sa plus grande menace de COVID-19. Darwin, la ville de Litchfield et Palmerston entrent dans un verrouillage complet depuis 13 heures ce dimanche. Pendant 48 heures, 4 nouveaux cas positifs ont été détectés. Un cas s'étant rendu en Nouvelle-Galles du Sud. 2 nouveaux cas positifs sont actuellement en isolement sur la mine de Tanami. Le chef du territoire, Michael Gunner, a déclaré que des restrictions entrent en vigueur depuis 13 heures ce dimanche.
You're only permitted to leave your home for the following 5 reasons. 1, medical treatment, including COVID testing or vaccination. 2, for essential goods and services like groceries. 3, for work that is considered essential. 4, for 1 hour of exercise a day with 1 other person or the people you live with no further than 5 kilometres from your home. And finally, to provide care and support to a family member or person who cannot support themselves.
Le Queensland a signalé 2 nouveaux cas de COVID-19 au sein de la communauté, dont une personne en quarantaine à l'hôtel. Les cas ne sont pas liés au cluster de Sydney. La chef du Queensland, Anastasia Palaszczuk, a déclaré que les personnes avaient été infectées par le variant Alpha, l'un des cas ne présentant aucun symptôme.
They were out and about in the community, so we're going to urge people, if you have any symptoms, to go and get tested. It is absolutely critical. If everyone looks very carefully at the venues that the media will put out, and if you're at any of those venues, you need to make sure that you take precautions.
Le Victoria n'a enregistré aucun nouveau cas local de coronavirus ce dimanche. 3 cas ont été enregistrés en quarantaine à l'hôtel au cours des dernières 24 heures et près de 20 700 tests de COVID ont été effectués. Le ministre de la Santé de l'État, Martin Foley, demande aux gens de ne pas traverser la frontière pour aller dans une zone rouge et de ne pas visiter ces zones rouges de la Nouvelle-Galles du Sud. Martin Foley a averti les habitants des zones rouges de la Nouvelle-Galles du Sud qu'ils risquent une amende de 5 000 $ s'ils tentaient d'entrer dans l'État du Victoria. Un troisième vaccin, le vaccin à dose unique de Johnson & Johnson, a été approuvé pour être utilisé en Australie. Les autorités sanitaires du Canada et de l'Allemagne ont averti que les infections liées au coronavirus sont susceptibles d'augmenter, tandis que l'Islande est sur le point de mettre fin à toutes les restrictions concernant la pandémie. Le Canada prévoit que les infections du COVID-19 diminueront rapidement au cours des 2 prochains mois, mais le variant Delta, plus contagieux, risque de provoquer encore plus de cas que prévu plus tard cette année. À Miami, en Floride, où un immeuble de 12 étages s'est effondré dans la nuit de mercredi à jeudi, au moins 4 personnes tuées, mais il y a quelques 156 personnes disparues. Les dernières nouvelles avec Heike Schmidt pour Radio France Internationale.
Des nuages de poussière se dégagent encore des décombres. Les pompiers appellent la population à rester cloîtrée à la maison. Aucun survivant n'a pu être dégagé des décombres vendredi. Problème pour l'heure, on ne sait même pas si tous les 159 personnes qui restent disparues se trouvaient dans le bâtiment lorsqu'il s'est effondré tel un château de cartes. Les équipes fouillent sans relâche dans les amas de béton et de ferraille et la maire du comté assure qu'il y a encore de l'espoir. Mais les heures passe et la colère gronde parmi les proches. Ils fustigent la lenteur de l'opération de sauvetage et demandent des explications. L'immeuble était-il stable? Un rapport de 2018, publié seulement vendredi soir, fait état de dommages structurels majeurs, de fissures et d'effritements dans une dalle de béton. Une habitante qui a pu s'échapper à la dernière minute dit avoir entendu des craquements et des bruits bizarres bien avant la catastrophe. « Je veux des réponses, dit-elle. Quelqu'un doit payer. »
Le secrétaire à la santé du Royaume-Uni, Matt Hancock, qui a dirigé la réponse du pays au coronavirus, a présenté sa démission. Cela s'est produit juste un jour après qu'il se soit excusé pour avoir enfreint les règles de distanciation sociale avec une assistante avec laquelle il aurait eu une liaison. Le porte-parole de la santé de l'opposition, Jonathan Ashworth, a déclaré que si Matt Hancock était resté à son poste, beaucoup de gens n'auraient pas suivi les règles eux-mêmes. En France, le second tour des élections régionales, c'est ce dimanche 27 juin et la participation sera l'une des clés du scrutin. Je rappelle, il y a eu une abstention record au premier tour. Le point maintenant avec Valérie Gasse pour RFI.
C'est la grande incertitude du second tour. Les Français vont-ils encore une fois bouder les urnes massivement? Cette semaine, les candidats et les états-majors politiques se sont mobilisés pour appeler au vote, recentrer la campagne sur les enjeux locaux et non plus nationaux comme avant le premier tour, en essayant d'expliquer l'influence de ces élections sur la vie quotidienne des Français. Une campagne de communication éclair a même été lancée par le gouvernement sur les réseaux sociaux pour essayer de motiver les jeunes dont l'abstention a été encore plus massive que celle de la population générale, près de 20 points supérieurs. Une enquête menée par l'Institut Odoxa a fait apparaître que la faible participation n'était pas due qu'à des raisons conjoncturelles liées à la crise sanitaire par exemple, mais aussi pour un abstentionniste sur deux à la défiance, au désintérêt, soit par rapport à ce scrutin, soit par rapport à l'offre politique. Un phénomène profond donc, dont tous les partis ont souffert à des degrés différents et qui, s'il se maintient au second tour, risque d'avoir un impact sur les résultats.
En Allemagne, après l'attaque au couteau de Würzburg en Bavière, les enquêteurs ne savent toujours pas sur les motivations de l'agresseur. Le bilan est de 3 morts et 5 blessés graves. Précision de Nathalie Versieux pour RFI.
Le jeune Somalien de 24 ans est aujourd'hui placé en détention provisoire. Selon des témoins, l'homme, qui était connu pour des faits de violence remontant à janvier et mars dernier, aurait parlé de djihad et crié « Allahu Akbar ». De la propagande islamiste aurait été retrouvée dans le foyer pour personnes sans domicile dans lequel il vivait. Pour autant, il est difficile pour l'heure de parler de terrorisme islamique, comme l'explique le ministre de l'Intérieur de la Bavière, Joachim Herrmann.
La question n'est pas de savoir si on a affaire à des problèmes psychiques ou à une motivation radicalisée. Nous ne pouvons répondre avec certitude pour l'instant ni sur l'un ni sur l'autre. Je veux rappeler que les deux ne s'excluent pas. Il y a des gens qui présentent ces deux caractéristiques. Cela fait partie des choses sur lesquelles il faudra encore enquêter.
Le dossier de Würzburg n'a pour l'heure pas été transmis au procureur fédéral, comme c'est le cas pour les affaires de terrorisme, ce qui pourrait évoluer après déchiffrage des informations contenues dans les documents saisis dans le logement de l'agresseur, ainsi que dans son téléphone, une analyse qui prendra du temps à préciser la police en raison du lent travail de traduction nécessaire.
On passe à la météo pour ce dimanche en Australie, à Perth, où il fera 18 degrés, Adélaïde 16, Melbourne 15, Hobart 11, Canberra 13, Sydney 18, Brisbane 21, Cairns 27, Darwin 31 et à Alice Springs, un maximal de 15 degrés. Un rappel des grands titres de ce dimanche 27 juin. Tout le Greater Sydney, les Blue Mountains, la Central Coast et Wollongong ont commencé leur première journée complète de restrictions pour 14 jours pour arrêter la flambée de l'épidémie de COVID-19. Darwin, les zones rurales, la ville de Litchfield et Palmerston entrent dans un verrouillage complet depuis 13 heures ce dimanche pour 48 heures. Un message du gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud. La Nouvelle-Galles du Sud est en état d'alerte élevé pour le COVID-19. Assurez-vous de vérifier les derniers endroits touchés, les règles sanitaires concernant les cas de COVID et suivez les conseils de New South Wales Health. Si vous habitez dans le Greater Sydney, les Blue Mountains, la Central Coast, Wollongong ou Shell Harbour, et si vous avez visité ces lieux le 21 juin ou après, vous ne devez quitter votre domicile que pour des raisons essentielles. Par exemple, pour les courses alimentaires, l'exercice, les soins médicaux, le travail ou les études essentielles. Si vous ne vous sentez pas bien ou si vous présentez des symptômes, même légers, faites-vous tester immédiatement et isolez-vous. Pour les dernières informations et les cliniques de tests pour le coronavirus, visitez le site internet du gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud, nsw.gov.au. nsw.gov.au. Journal des sports de ce dimanche. Le Tour de France est parti depuis hier sur les routes de Bretagne. Et c'est Julien Alaphilippe, le Français, qui remporte la première étape. Sophia Namazian, Radio France Internationale.
Et oui, le Français s'empare d'ores et déjà du maillot jaune sur les hauteurs de Landerneau en Bretagne, au terme d'une étape marquée par deux chutes massives presque consécutives. Le coureur français, actuel champion du monde, a réalisé un coup de maître dans les dernières bosses de la course. Une accélération au meilleur des moments lui aura donc suffi pour s'adjuger l'étape. Sa sixième victoire sur le Tour, et visiblement, le Français l'avait parfaitement préparé.
C'est un truc de fou. Déjà, prendre le départ du Tour en maillot champion du monde, c'est un truc de fou. Je profite de chaque seconde, chaque kilomètre. J'avais à cœur d'essayer de gagner une étape la première semaine et c'est fait le premier jour. Donc, on l'avait dit ce matin en briefing, j'avais demandé vraiment de monter à bloc dès le pied pour essayer d'éliminer des sprinters ou vraiment mettre en difficulté les coureurs qui passent bien les bosses mais qui sont rapides au sprint. Donc, c'est ce que l'équipe a fait et c'est le moment aussi que j'ai choisi pour produire mon effort pour voir quelle différence je pouvais créer. C'est juste incroyable, il faut profiter de ces moments-là. Je pense que dans une carrière, on n'en vit pas 50. Et voilà, depuis 2-3 ans, le Tour me réussit et je me fixe des objectifs à chaque fois plus haut. Et là, c'est un début de Tour exceptionnel, quoi.
Et une première pour ce Tour de France, un Africain noir pour la première fois qui va courir, Nicolas Dlamini. Il participe à cette 108e édition. Romain Chanson, RFI.
Nicolas Dlamini a fait ses armes dans une académie de cyclisme un peu spéciale, Velokaya, dans le township de Kialetisha. Une école plus qu'un centre de formation pour professionnels, ce qui n'empêche pas l'éclosion de jeunes talents. Son manager Sipo Mona se souvient de Nicolas comme d'un petit prodige.
On voyait qu'il avait du talent dès son plus jeune âge. Il faut rappeler qu'il vient de la course à pied, il courait les épreuves de cross-country. Il a dû faire un choix entre le cyclisme et la course à pied car il excellait dans les deux sports.
Pour Sipo Mona, la participation de Nicolas au Tour de France représente les espoirs et les rêves des jeunes de l'académie.
Ce qui fait le succès de notre organisation, selon moi, c'est de voir que nos gamins n'ont pas pour idole des coureurs étrangers. Ils ont pour modèle des gens qui viennent de leur quartier. S'ils voient que ces gars ont réussi, alors ils se disent qu'ils peuvent aussi le faire.
Quand Nicolas Dlamini revient d'Europe, il continue à se rendre à Velokaya dans le township et à s'entraîner avec la relève comme Teteleli Boya.
Il a gardé les pieds sur terre quand il revient d'Europe, il nous prodigue quelques conseils. advices.
À l'annonce de sa sélection pour le Tour, Nicolas Dlamini a réagi sur Twitter. Je veux courir pour inspirer davantage d'enfants pour qu'ils suivent mes pas et parcourent le monde comme je le fais.
On passe maintenant au foot, l'Euro, le premier des matchs des huitièmes de finale, avec la victoire de l'Italie contre l'Autriche, 2-1. Après prolongation, le Danemark a écrasé le Pays de Galles, 4-0. Ce dimanche, le Portugal jouera contre la Belgique, les Pays-Bas contre la République tchèque. Un mot sur la préparation des Bleus qui jouent contre la Suisse demain lundi. Thomas de Saint-Léger, RFI.
Les coéquipiers de Kylian Mbappé, on rappelle quand même, ont terminé à la première place de leur groupe. Mission accomplie d'un point de vue comptable, mais l'impression laissée lors des deux derniers matchs contre la Hongrie et contre le Portugal est plutôt mitigée. Il y a des progrès à faire, ce dont est bien conscient le défenseur Jules Koundé.
Il y a certaines choses qu'on peut améliorer, on en est convaincu, mais l'essentiel est qu'on est une équipe difficile à jouer, difficile à manœuvrer, difficile à gagner, puisqu'on est invaincu pour l'instant. Donc c'est des bonnes bases. Après, c'est des ajustements à trouver pour encore être plus conquérant et faire encore plus mal à l'adversaire.
Jules Koundé avec Antoine Grenier, et les Bleus auront du temps pour se pencher sur leurs maux et les potentiels remèdes. Ils disputeront lundi ce huitième de finale face aux Suisses.
En Afrique, l'équipe du Bénin prolonge le contrat de son sélectionneur, le Français Michel Dussuyer. Les précisions de Martin Guèze pour RFI.
Les écureuils sont tombés de l'arbre africain et ne sont pas qualifiés pour la prochaine CAN. Michel Dussuyer s'accroche aux branches, alors que le Bénin, quart de finaliste de la dernière CAN, ne sera donc pas présent au Cameroun l'an prochain, après avoir abandonné le dernier ticket la semaine passée face à la Sierra Leone au terme de plusieurs mois d'imbroglio. Le poste du sélectionneur français était menacé. En place depuis juillet 2018, celui qui a aussi entraîné la Guinée et la Côte d'Ivoire reste finalement sur le banc béninois, au moins jusqu'à la fin de l'année et des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022. Du côté des joueurs, c'est un grand soulagement après des rumeurs de licenciement de Michel Dussuyer, soulagé comme Steve Mounier, le buteur du Bénin.
Je pense que c'est une bonne chose que le coach Michel Dussuyer soit reconduit. Voilà, il faut savoir que c'est lui qui nous a amenés en quart de finale de la Coupe d'Afrique. Et c'était important pour nous aussi les joueurs d'avoir une certaine continuité, d'avoir une certaine stabilité au sein de l'équipe nationale. On a travaillé ensemble depuis un certain nombre de temps. Aujourd'hui, on se connaît, on sait comment il fonctionne, il sait comment aussi les joueurs fonctionnent. Il sait les erreurs qu'on a commises, il sait les bonnes choses qu'on sait faire. Donc c'est important pour entamer cette campagne de Coupe du Monde, d'entretenir cette stabilité et de poursuivre avec ce coach. Voilà, on espère que les résultats vont suivre, mais j'en doute pas. Voilà.
Les écureuils, qui ont déjà pris part à 4 CAN, n'ont jamais disputé la Coupe du Monde. Ils affronteront en poule de qualification Madagascar, la RDC et la Tanzanie à partir de septembre.
On passe à l'Euro féminin de basket avec la victoire en demi-finale hier des Françaises contre les Biélorusses 73-61. Un mot de tennis avec la finale du tournoi de Eastbourne, remportée par l'Australien Alex de Minaur contre Lorenzo Sonego, l'Italien, en 3 manches, 4-6, 6-4, 7-6. Chez les dames, la finale a été remportée par Ostapenko, la Lettonne, qui avait obtenu une wild card pour ce tournoi. Elle a battu Kontaveit, l'Estonienne, en 2 manches, 6-3, 6-3. Chez les dames, toujours à Hambourg, la finale a été remportée par l'Allemande Angélique Kerber contre la Tchèque Siniakova en 2 manches, 6-3, 6-2. Et à Majorque, la finale a été remportée par le Russe Medvedev contre l'Américain Carey, 6-4, 6-2. Voilà pour le journal des sports de ce dimanche.
écoutez Vos Conversations, SBS French.
Eh bien, comme chaque dimanche, nous revenons sur un événement marquant de l'actualité et une personnalité qui lui est associée. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Émile Matasso. Bonjour à vous, Émile.
Bonjour Jean-Noël, bonjour à tous.
Focus aujourd'hui sur Bernard Hinault.
Oui, alors que le Tour de France, on parle de cyclisme bien entendu, s'élance depuis la Bretagne ce week-end, tout à l'ouest de la France, la Bretagne. Le focus sur Bernard Hinault, le Breton, qui reste le dernier Français à avoir remporté le Tour. C'était en 1985, voilà 36 ans que la France attend un successeur à Bernard Hinault, qui des Tours de France, lui, en a remporté 5, hein, 1978, 79, 81, 82, et le dernier... Donc le cinquième, il y a 36 ans, en 1985. Aujourd'hui, Bernard Hinault, il est âgé de 66 ans, il est à la retraite, mais il ne pouvait pas passer à côté de ce grand départ en Bretagne. Lui qui est né à Effignac, dans les Côtes d'Armor, il est né en 1954. La deuxième étape du Tour, ce dimanche, elle se court entièrement sur ses terres, dans les Côtes d'Armor, étape entre Perros-Guirec et le mur de Bretagne, où est jugé l'arrivée ce dimanche. Le Tour qui passe en tout 4 jours hein, en Bretagne, les 4 premières étapes, une pour chaque département de la région, le Finistère, les Côtes d'Armor, le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine, la Bretagne, terre de cyclisme, depuis le premier Tour de France en 1903, 4 Bretons ont gagné le Tour, Lucien Petit Breton, c'est son nom, hein, Petit Breton, le bien nommé, en 1907 et 1908, Jean Robic en 1947, Louison Bobet à 3 reprises, 1953, 54 et 55, et donc les 5 Tours de France de Bernard Hinault.
Bernard Hinault, vous l'avez dit, est à la retraite, mais ces derniers jours, on l'a quand même beaucoup entendu.
Oui, et pour cause, le Tour démarre en Bretagne, on l'a dit, ça n'arrive pas si souvent, ce n'est que la 7e fois, et forcément, les médias se sont tournés vers le plus illustre des coureurs bretons, Bernard Hinault. Que dit-il ? Bernard Hinault, que l'on surnommait le blaireau hein, du temps de sa splendeur dans le peloton, le blaireau, pour son caractère, il faisait peur à tout le monde. Parmi les sujets qu'il affectionne, il y a celui de l'état du cyclisme français. Alors, normal, hein, me direz-vous, puisque tous les ans, on lui tend la perche. On lui demande qui sera, selon lui, son successeur. Eh bien, Bernard Hinault s'est exprimé, encore une fois, avec son franc-parler, toujours aussi cash, le blaireau, avant le grand départ à Brest. On a pu voir, lire plusieurs interviews dans les médias. Un Français vainqueur du Tour, ce ne sera pas pour cette année, a-t-il asséné, ou alors ce sera vraiment une erreur de la part des autres. Et il a précisé sa pensée. Quand on regarde les Geraint Thomas, Tadej Pogacar, tenant du titre, vainqueur l'an passé, Primoz Roglic, Richard Carapaz, il y en a quand même beaucoup trop par rapport à nos coureurs. Mais que pense-t-il tout de même de Julian Alaphilippe, hein, qui a porté le maillot jaune ces deux dernières années, qui a remporté le championnat du monde à l'automne, maillot arc-en-ciel sur le dos, là aussi la question lui a été posée, il lui manque les aptitudes en très haute montagne, hein, dit Bernard Hinault, qui ajoute, il le sait très bien. Et finalement, tout le charme de Bernard Hinault est là, au premier abord, il peut sembler très, très froid, très clivant, mais son charme, finalement, bien c'est qu'il dit, ce qu'il pense, là où dans l'entourage des coureurs, on trouvera très souvent des bonnes excuses pour expliquer la faillite des coureurs français. Ces dernières années, Bernard Hinault, il n'a pas hésité à affirmer, par exemple, eh bien oui, qu'il doutait des capacités d'un Romain Bardet ou d'un Thibaut Pinot à remporter le Tour. Il n'avait pas attendu, hein, bien que l'on voit tous, effectivement, qu'ils se heurtent ces deux-là à leurs limites pour dire ce qu'ils pensaient. Là où tous les médias parlaient de Bardet et de Pinot, pour ne s'en tenir qu'à eux, comme s'ils étaient les nouvelles pépites du peloton, eh bien, il avait dit clairement qu'ils étaient, selon lui, un ton en dessous des tout meilleurs, des Christopher Froome et consorts. Force est de constater qu'il avait raison. Mais si lui, il y est arrivé à gagner Bernard Hinault il y a 36 ans et plus encore. Eh bien, c'est tout simplement qu'il était hors norme, comme un Eddy Merckx quelques années auparavant. Ses anciens coéquipiers le racontent très bien, d'ailleurs, ils en rigolent. Jean-François Bernard, dans le journal L'Équipe ces derniers jours, disait, il a couru, il démarrait sa carrière quand Bernard Hinault terminait la sienne, Jean-François Bernard, ils ont couru dans la même équipe. C'est ça son problème, en parlant de Bernard Hinault. Hein. Il pense qu'on peut faire comme lui, et il poursuit, sauf qu'Hinault, eh bien, il était capable de faire 8 jours sans rouler, donc sans s'entraîner, et de gagner juste derrière. Il était à part, une jambe au-dessus de tout le monde, donc il n'en faisait qu'à sa tête. Voilà donc propos de Jean-François Bernard, que l'on avait présenté à l'époque comme le successeur potentiel de Bernard Hinault, des propos qui résument bien tout ce qu'était lorsqu'il était sur un vélo le blaireau.
En quelques mots, pour terminer, le palmarès de Bernard Hinault, on peut le rappeler ?
Oui, bien, avec Jacques Anquetil, Eddy Merckx et après lui Miguel Indurain, il fait partie des 4 coureurs, Bernard Hinault, à avoir gagné le Tour à 5 reprises. Par la suite, Lance Armstrong, l'Américain, a fait mieux hein, avec 7 victoires, mais lui ont été retirées pour dopage. La carrière de Bernard Hinault, elle ne se résume pas au Tour de France. C'est simple, il a eu ses 5 tours, mais il a tout gagné. Il avait cette faculté à gagner quand il en faisait tout simplement un objectif. Il n'aimait pas, par exemple, les pavés de Paris-Roubaix, l'enfer du Nord. Mais une année, il a tout mis en œuvre pour gagner la course. C'était en 1981. Il s'est préparé, il y est allé, il a gagné. Le Tour d'Italie, le Giro, il l'a remporté à 3 reprises. La Vuelta, le Tour d'Espagne, 2 fois. Le maillot arc-en-ciel, champion du monde en 1980. Et pour les courses d'un jour, on le disait, Paris-Roubaix, mais aussi Liège-Bastogne-Liège, le Tour de Lombardie, 2 fois pour les 2 courses. Gank-Wevelgem, la Flèche Wallonne, l'Amstel Gold Race, etc., etc. Bernard Hinault, qui après sa carrière de coureur a été sélectionneur de l'équipe de France quelques années. Il s'est consacré ensuite à sa ferme, éleveur de bovins. Puis on l'a vu pendant des années, ensuite avec des responsabilités chez ASO, les organisateurs du Tour de France. Et on le retrouvait tous les mois de juillet, tous les jours, hein, dans cette ambiance du Tour de France. Aujourd'hui, il est à la retraite, il profite. Et ce dimanche, on le disait en préambule, le Tour est chez lui dans les Côtes d'Armor.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
À Europa Voice avec ce focus sur le deuxième tour des élections régionales en France ce dimanche. Et bien après chaque élection à forte abstention, la question du vote obligatoire est remise sur la table. Mais y a-t-il d'autres formules magiques ? Analyse de Nathanaël Bloch qui est avec notre collègue Grégory Pless.
Bonjour à tous et à toutes. Nouvel épisode Europa Voice. Aujourd'hui, on va revenir indirectement sur les élections régionales qui se sont jouées en France. On va parler en fait du fait le plus marquant de ce premier tour, l'abstention record. Les deux tiers des électeurs au niveau national ne se sont pas déplacés pour aller voter. On va en parler avec vous, Nathanaël. Bonjour.
Bonjour Grégory.
Alors, moi, quand j'ai vu ces chiffres hallucinants, je me suis demandé, et si la solution pour lutter contre l'abstention, c'était pas de faire comme en Australie, de rendre le vote obligatoire, d'autant que ça existe déjà dans un certain nombre d'autres pays de l'Union européenne. Qu'est-ce que vous en pensez, Nathanaël, et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la façon dont le vote obligatoire fonctionne ailleurs en Europe ?
Alors, Grégory, sur cette question... Du vote obligatoire. En fait, d'abord, pour remettre un peu dans le contexte, c'est une sorte de marronnier, c'est quelque chose qui ressort de manière assez systémique en France quand on a des chiffres d'abstention qui sont très élevés à une élection. On a l'impression que c'est un petit peu la formule miracle. Et puis là, évidemment, ça n'a pas manqué, hein, puisqu'on a eu à peu près 67% des électeurs français qui ne se sont pas présentés aux dernières élections à la fois régionales et départementales. Donc dès le soir même, au moment des plateaux de télévision sur l'analyse des résultats des élections, on a ressorti cette vieille rengaine du vote obligatoire comme solution miracle à la participation aux élections. Donc déjà, premier élément. Ensuite, sur cette question du vote obligatoire, je pense qu'il faut bien distinguer deux choses, Grégory. D'abord, c'est qu'en fait, le vote obligatoire, il s'inscrit dans un ensemble de solutions que des politologues, que des scientifiques même, sont en train d'étudier pour justement augmenter la participation au suffrage électoraux, quel qu'il soit, que ce soit une présidentielle, une régionale, etc. Et donc, le vote obligatoire, il est étudié au même titre que, par exemple, le rassemblement des scrutins, c'est-à-dire, au lieu de faire voter les gens plusieurs fois, par exemple, dans une année, bah, vous rassemblez certains scrutins électoraux ou au même titre que d'autres solutions comme la reconnaissance du vote blanc pour bien faire rendre compte aux élus que finalement ils sont élus, ils sont choisis sur une base très faible de votants. Et puis le deuxième aspect, Grégory, comme vous le disiez, c'est est-ce qu'on a des éléments de comparaison dans d'autres pays du monde et plus spécifiquement au sein de l'Union européenne d'un vote obligatoire et surtout est-ce qu'on a une corrélation entre le vote obligatoire et la participation aux élections quand il y a un vote obligatoire. Alors sur cette deuxième question, malheureusement on n'a pas de réponse magique et on a des exemples de pays par exemple la Belgique ou le Luxembourg où on a un vote qui est obligatoire ou en cas d'abstention, on a des sanctions assez symboliques financières qui sont prévues et on voit qu'on a un taux de participation effectivement qui est très élevé à la fois et en Belgique et au Luxembourg, on avoisine les 90%. Donc ça, c'est un exemple, j'allais dire, qui va dans le sens de ceux qui pensent qu'il faut un vote obligatoire pour augmenter les taux de participation aux élections. Mais malheureusement, vous avez des pays où vous avez, malgré le caractère obligatoire du vote, une abstention qui est en constante augmentation. Je peux citer par exemple la Grèce, où c'est inscrit dans la Constitution que le vote est obligatoire, et ça depuis 1975. Et ben malgré ça, on a un taux de participation qui ne cesse de chuter aux différentes élections en Grèce. Donc vous voyez, on a des exemples au niveau européen, mais malheureusement, on n'a pas de corrélation ou de formule magique entre vote obligatoire et augmentation de la participation aux élections.
Et sur le cas de la Grèce, est-ce qu'il y a des éléments qui expliquent cette augmentation de l'abstention ? Déjà, est-ce qu'il y a des sanctions si on ne se rend pas aux urnes ? Enfin, je m'étonne juste de la différence entre le cas de la Belgique ou du Luxembourg, où visiblement le taux de participation est quasi maximal, et celui de la Grèce, où le vote est également obligatoire, mais où vous dites que l'abstention progresse malgré tout de scrutin en scrutin.
Alors, on va prendre l'exemple de la Grèce. En fait, au niveau des sanctions, en Grèce, vous avez une amende, mais qui est somme toute symbolique, c'est une amende de 5 à 10 euros. Mmh. Et si, en cas de récidive de non-participation à un vote, ce montant de l'amende, il est porté de 10 à 25 €. La seule, j'allais dire, Grégory, sanction qui est un peu plus que symbolique, c'est si un électeur s'abstient au moins 4 fois pendant une période de 15 années, il est rayé des listes électorales pour 10 ans. Et encore, vous allez me dire, vous avez certainement certains abstentionnistes pour qui ça ne fait ni chaud ni froid d'être rayé des listes électorales. Donc vous voyez, en Belgique, en fait, on a des sanctions qui sont, somme toute, assez symboliques, et pourtant on a un taux de participation qui est très élevé. Alors que si on prend la Grèce, en fait, un électeur qui n'exercerait pas son droit de vote et de manière injustifiée, donc on enlève de ça par exemple les électeurs grecs qui sont à l'étranger ou qui habitent très loin de leur circonscription le jour du scrutin, s'ils n'ont pas changé. Donc si vous n'avez pas de raison justifiée, vous avez entre un mois, vous risquez entre un mois et un an d'emprisonnement. Mais là aussi, Grégory, c'est une sanction pas forcément symbolique, mais en tout cas, il n'y a aucune contrainte, aucun pouvoir de contrainte, puisque cette peine de prison n'a jamais été appliquée en Grèce. Donc vous le voyez, en fait, on a le cas où on a deux pays, où finalement, dans les deux pays, les sanctions sont différentes, mais restent malgré tout symboliques ou non appliquées. Et bien, malgré ça, on a des taux de participation qui sont foncièrement différents. Donc, vous voyez, c'est assez dur d'expliquer pourquoi il y a une telle différence entre les deux pays. Et donc, ça ne permet pas non plus d'expliquer qu'il y a une automaticité de l'augmentation de la participation à un scrutin parce que le vote est obligatoire.
D'accord, donc ce n'est pas la formule magique pour régler le problème de l'abstention. Toujours est-il qu'en France, il augmente d'année en année. La dernière élection présidentielle, le deuxième tour, on a eu le plus fort taux d'abstention de l'histoire de l'élection présidentielle, plus de 25%. Est-ce que ça ne pourrait pas, malgré tout, régler une partie des problèmes qu'on a en France, notamment problèmes que rencontrent de plus en plus de dirigeants politiques qui sont élus, au final, avec très peu de voix et qui, malgré le fait qu'ils se présentent à une élection qui la remporte, sont contestés pendant toute la durée de leur mandat sur leur légitimité?
Alors, c'est évidemment une très bonne question, Grégory. La véritable, si vous voulez, il faut aussi prendre cette imposition du vote obligatoire en fonction de la société dans laquelle vous évoluez, ou en tout cas en fonction de la société dans laquelle vous voulez imposer cette contrainte. En France, la vraie question qu'on est en droit de se poser, c'est est-ce que la peur du gendarme et la peur de l'amende, elle ferait que le taux de participation aux élections serait élevé. Et surtout, est-ce qu'il y a une effectivité de la sanction? Pour moi, la question, elle est vraiment là, Grégory. C'est, vous pouvez avoir une sanction, très bien, mais est-ce que cette sanction, elle est dissuasive? Et surtout, est-ce qu'elle est effective? Et mon sentiment personnel, c'est que pendant la période de Covid en France et du confinement, est-ce que véritablement une amende de 130 € était quelque chose qui était dissuasif pour ceux qui ne voulait pas obéir, j'allais dire, à la loi commune et à l'intérêt général. Donc, tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser au vu et au su du contexte français. Ensuite, le vrai problème, Grégory, là où il faut aussi mettre en lumière cette automaticité de la sanction en cas de non-participation à des élections, c'est de savoir en fait comment est-ce qu'après vous compter les voix du scrutin. En fait, quelles sont les modalités de scrutin? Parce que j'allais dire, si on est dans un scrutin qui est complètement, qui est une proportionnelle intégrale, finalement, on peut considérer que l'abstention, elle ne fait que réduire, si vous voulez, la pertinence de la représentativité globale. Par contre, elle ne change pas le rapport de force entre les formations. Alors, effectivement, une formation qui a un petit score, elle aura un petit nombre d'élus, mais il y aura toujours des élus qui seront à l'Assemblée représentative. Le problème, c'est par exemple si on prend les élections régionales avec le plafond de 10%, avec le fait que vous avez des listes qui vont se désister pour le second tour, vous avez toute une partie de l'électorat qui ne va pas se sentir représenté parce que leur formation, pour diverses raisons, se désiste. Et donc là, mon intime conviction, c'est que la participation obligatoire ne change strictement rien à la perception que peut avoir un citoyen parce qu'il ne se sent pas représenté par le mode de scrutin. Et donc c'est pour ça que je pointais un peu ça du doigt cela au début, c'est que finalement il faudrait prendre le caractère obligatoire du vote dans une réflexion beaucoup plus globale sur la façon dont les Français se rendent aux urnes et la façon dont les Français aussi sont représentés à la suite d'un vote et en fonction de l'élection pour laquelle ils votent.
D'accord, donc il faudrait vraiment une réforme beaucoup plus large que simplement rendre le vote obligatoire. Alors un autre point que je voulais voir avec vous, c'est pareil dans les débats en France qui ont suivi ce premier tour. Il y a beaucoup de voix qui ont dit s'il y a une abstention si forte, c'est en partie parce que les gens avaient peur d'aller voter, d'attraper le coronavirus qui circule quand même encore toujours beaucoup en France, en tout cas quand on compare avec l'Australie. Et donc il y a beaucoup de gens en ce moment qui disent il faut permettre le vote électronique. On fait nos cours sur Internet, on paye nos impôts sur Internet. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas voter sur Internet? C'est vrai que ça semble très pratique, mais pourtant, il y a aussi sur ce plan-là beaucoup de résistance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les arguments en défaveur de la mise en place du vote électronique?
Alors, même constat sur cette question, Grégory, c'est pareil, le vote électronique, ce n'est pas la solution miracle. On pourrait trouver des exemples dans le monde où vous avez une participation qui est beaucoup plus forte avec un vote électronique et une participation beaucoup moins forte dans d'autres pays avec ce même système de vote électronique. Donc, premier élément, c'est que le vote électronique, de la même manière que le vote obligatoire, de la même manière que le rassemblement des scrutins ou la reconnaissance du vote blanc, ce sont des éléments qu'il faut prendre dans un tout beaucoup plus global sur le vote. Alors, vous faites référence sûrement dans votre question aussi, alors non seulement au vote électronique et au débat de manière générale sur la question, mais aussi, hein, on a eu le Stanislas Guérini, hein, donc le patron de la formation des marcheurs, qui lui avait dit qu'il voulait voir la mise en œuvre du vote par Internet dans le prochain quinquennat, dès le lendemain des élections régionales. Donc c'est encore une fois, vous voyez, hein, on a une abstention qui est forte et directement après, on ressort les vieilles rengaines sur la question du vote électronique. Alors, la première chose, Grégory, c'est évidemment la question de sécurité. C'est comment est-ce qu'on s'assure que une personne derrière un ordinateur soit bien cette personne-là qui vote? Comment on s'assure qu'elle vote aussi librement? C'est le principe quand même de l'isolant, hein, il faut le rappeler, hein, c'est que vous êtes seul dans votre cabine et vous n'agissez pas sous la contrainte. Donc comment est-ce qu'on s'assure de ces choses finalement assez simples quand c'est physique, quand on est derrière un ordinateur? Et puis la question c'est comment est-ce que aussi on fait pour faire face à la fracture numérique, parce que d'une certaine façon et on en parlait Grégory en antenne, en France le maillage territorial est quand même assez bien fait pour que n'importe quel électeur s'il est inscrit sur les listes électorales de sa circonscription, là où il habite, n'est pas à se rendre trop loin le jour du scrutin. Avec le vote électronique, c'est comment est-ce qu'on fait pour couvrir des territoires l'accès à Internet, au débit, aux télécommunications, aux moyens de télécommunication pour voter, ne sont pas encore optimales.
Bon, merci Nathanaël, comme d'habitude, pour votre analyse et vos explications. Et puis, on vous retrouvera dans un prochain épisode d'Europa Voice. Merci beaucoup.
Merci Grégory.
On termine l'émission. Prochain rendez-vous mardi à partir de 13h sur les ondes SBS French. Très belle fin d'après-midi et à très bientôt.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/SBS French.